Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, votre radio valdoisienne en Ile-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. En 2022, 245 000 personnes ont été victimes de violences conjugales et 118 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou anciens compagnons. En moyenne, une tous les trois jours. En 2023, le ministère de la Justice a dénombré 94 féminicides en 2023. Au cours de ces 20 dernières années, la loi a évolué, la sémantique et les concepts liés à ce phénomène de masse également, avec l'apparition du terme même de féminicide et la notion d'emprise, largement documentée par les sciences sociales. Vous l'aurez compris, ce matin nous allons parler de violences intrafamiliales et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Stéphane Alemo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Avocat dans les affaires de droit du travail et du droit commercial, vous êtes jusqu'à la fin de cette année bâtonnier au barreau du Val d'Oise. Un mandat de 2 ans pour lequel vous avez œuvré encore pour mettre à l'honneur ce barreau du Val d'Oise en multipliant les conventions auprès des entrepreneurs et artisans, mais également avec notre média, ce dont nous vous sommes très reconnaissants et heureux puisque nous allons ainsi avoir des rendez-vous réguliers avec vos confrères, sans oublier le rendez-vous mensuel avec Sonia Oulad Ben Saïd, devenue animatrice pour l'occasion dans une émission consacrée au droit. Alors, bien que spécialiste du droit du travail et droit commercial, vous nous expliquerez quel est le rôle du bâtonnier dans les affaires de violences intrafamiliales, l'importance de la formation et la sensibilisation des avocats et comment le barreau du Val d'Oise se mobilise pour soutenir les victimes de ces violences.
Très bien.
À vos côtés, Sveta Panagas. Bonjour Sveta.
Bonjour à vous.
Merci pour votre présence.
Merci à vous pour l'invitation.
Avocate depuis 18 ans au barreau du Val d'Oise, fondatrice du cabinet Plume de Phoenix, tout un symbole, je pense. Vous vous définissez comme avocat de la résilience et depuis 2022, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, membre des commissions du barreau culturel, prospective et bien-être et équilibre depuis 2024. Anciennement, alors je cite tous vos titres, hein, je ne les dirai pas à chaque fois, mais je les cite tous là. Anciennement présidente des commissions victimologie, communication et membre du périmètre du droit 2022-2023. Un mandat en totale cohérence puisque spécialisée dans la défense exclusive des victimes d'accidents graves de la route, médicaux, du travail ou de la vie et de violence, entraînant un handicap avec perte d'autonomie ou un décès pour les adultes et les enfants, comme les bébés secoués. Complètement en phase donc avec le sujet que nous allons traiter tout au long de cette émission. Merci pour votre présence. Et à vos côtés, Corinne Le Foulgoc Delmouly. Bonjour Corinne.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Ravie de vous accueillir également dans nos studios. Avocat au barreau du Val d'Oise, membre du Conseil de l'Ordre, responsable de la commission famille. Vous exercez une activité dominante en droit de la famille et du patrimoine depuis 30 ans. Et bien évidemment avec nous ce matin pour nous donner votre éclairage juridique sur les violences intrafamiliales. Bienvenue à tous, à tous les trois au micro d'IDFM Radio.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Stéphane Alemo, alors je vous laisse nous rappeler peut-être votre parcours en quelques mots et puis nous dire le fait que vous ayez eu envie de vous engager pour votre propre barreau.
Oui, alors merci effectivement de l'invitation qui colle au cadre de la convention qu'on a signée avec votre radio. On en est vraiment ravis. En ce qui me concerne, c'est pas la première fois que je passe sur votre émission. Donc j'ai prêté serment, ce qui me concerne, au siècle dernier. C'était en janvier 99. Donc c'est, oui, ça fait quand même maintenant 25 ans.
Il y a très longtemps.
Voilà, il y a très longtemps. Bon, il y avait quand même la télé couleur à l'époque.
Oui.
Donc 25 ans de métier. Et puis j'étais, avant d'être bâtonnier, membre du conseil d'ordre en charge de différentes commissions. Et puis c'était presque entre guillemets naturellement que je voulais, comme l'ont toujours fait les bâtonniers précédents, apporter ma pierre à l'édifice. C'est un peu le rôle de chaque bâtonnier. Vous m'avez demandé aussi de décrire un peu ce que c'était le rôle d'un bâtonnier. C'est vrai que dans l'esprit du public, on ne sait pas trop ce que c'est. Un bâtonnier, c'est d'abord un avocat avant tout. J'ai toujours mon cabinet d'avocat avec mes affaires. Vous l'avez dit, je suis plutôt affairiste. Mais il n'en demeure pas moins que je me préoccupe de la situation de tous les justiciables.
Bien sûr.
Pas juste les entreprises, mais les particuliers, bien sûr. Et le rôle d'un bâtonnier représente l'ensemble des avocats de son barreau. Le barreau de Val-d'Oise, c'est le barreau du département. Il y a à peu près, au dernier état, 485 à 490 avocats inscrits, chacun intervenant dans des domaines très particuliers, que ce soit la défense des victimes, la défense des, en droit de la famille, en ce qui me concerne, en droit du travail, etc. Donc l'avocat est là pour les représenter, et puis il doit aussi coordonner l'action commune de l'ensemble des avocats. Et là, plus particulièrement, je vais répondre directement peut-être à votre question, qu'est-ce que font les avocats, comment ils se mobilisent pour défendre les victimes de violences familiales. Alors je voulais simplement une petite précision, on parle de violences intrafamiliales qui inspecte un peu plus large que les violences conjugales stricto sensu, parce que quand on parle de violences conjugales, c'est surtout des violences d'un époux ou d'un conjoint sur un autre, voilà, et la violence intrafamiliale est beaucoup plus large que ça, elle touche un impact aussi toute la composante familiale, y compris les enfants, qu'ils soient victimes directes de violence ou indirecte, puisqu'ils sont à minima témoins de scènes de violence qui apportent malheureusement un trouble, si ce n'est physique, psychologique chez les enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait nous sur le barreau? On colle déjà la politique générale de l'État, puisque les violences conjugales et intrafamiliales, on le sait, c'est un fléau. Vous avez rappelé les chiffres, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours.
Pour parler simplement, en
France, et puis on a eu aussi écho dans la presse de situations totalement dramatiques.
Voilà. Une affaire qui est en ce moment un procès là, qui est à cours. Oui.
Voilà, exactement. Donc évidemment, il fallait que tout le monde se mobilise, à commencer par les pouvoirs publics, et puis demander qu'il y ait aussi un répondant du côté des avocats pour assister. Alors, les victimes et aussi les auteurs de ces infractions-là. Mais aujourd'hui, on va parler des victimes. Sur le barreau, on a différents groupes d'avocats volontaires dans différents domaines qui impactent la question des violences intrafamiliales. Bien sûr, il y a un groupe d'avocats de victimologie, enfin de défense des victimes. Ce sont des avocats qui sont spécialistes ou qui ont une activité dominante dans la matière et qui signent un contrat avec l'ordre des avocats qui leur impose notamment de suivre des heures de formation spécifiquement dans ce domaine-là.
Ce qui donc fait au barreau du Val d'Oise.
Oui, tout à fait, sur le barreau de Val d'Oise. Ce qui fait qu'un justiciable qui veut être assisté d'un avocat du groupe de défense des victimes, nécessairement, il devrait en face de lui trouver un avocat qui se connaît en la matière, pour parler avec des mots très simples. Donc c'est vrai pour la défense des victimes, c'est vrai aussi en droit de la famille, parce que évidemment il y a un aspect pénal des infractions.
Bien sûr, donc, selon la gravité des actes.
Souvent, ça peut effectivement arriver. Et à côté de ça, il y a aussi des répercussions familiales, puisqu'après, la famille, elle explose. Il y a un divorce à la clé, la question de la garde des enfants, etc. Bon, la garde, c'est pas un terme très juridique, mais là encore, je schématise un petit peu pour que tout le monde comprenne. On a aussi un groupe donc d'avocats en famille. Même chose, on signe un contrat ordinal, on est astreint des heures de formation, et on est nécessairement compétent la matière, de par sa formation, ses diplômes, etc. Et on a aussi un groupe d'avocats pour les mineurs, de défense des mineurs. Alors, c'est défense des mineurs quand les mineurs sont auteurs d'une infraction eux-mêmes, ça très bien, mais aussi la défense des mineurs dans le cadre éducatif. Voilà, qu'ils soient victimes d'infractions ou simplement dans une situation de danger au sein de leur cellule familiale. Et ce danger-là, il peut être représenté et se présenter dans des cas de violence intrafamiliale. Donc voilà, on a vraiment des groupes d'avocats spécialisé, on va dire, dans les différentes composantes de ce que peut malheureusement engendrer des violences intrafamiliales.
Merci beaucoup Stéphane. Je vois que vous êtes en effet très investi dans ce domaine. Est-ce que les avocats dont vous nous parlez, qui ont suivi cette formation, est-ce qu'ils ont puisqu'on parle de c'est la permanence VIF, VIF, violence intrafamiliale, est-ce qu'ils ont un téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24 pour être en relation avec leurs victimes?
Alors non, pas 24 heures sur 24 sur le barreau, non, mais ouais. Par contre, aux heures d'ouverture, je dirais classique dans la journée, on peut très bien appeler l'heure des avocats et là, nécessairement, on va les orienter utilement. Et on a des avocats qui sont monopolisés assez rapidement dans l'urgence, puisque je pense que Corinne en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a des process de protection, notamment des épouses. On parle d'ordonnance de protection en cas de violence conjugale.
Oui.
On a des groupes d'avocats. Et la procédure, elle est très rapide, hein, c'est en quelques jours, quelques heures parfois, pour avoir une ordonnance de protection très rapidement d'un magistrat, un peu sur le modèle qui a un peu existé en Espagne. Ça existe maintenant en droit français. Et on a des avocats qui sont là et qui répondent pour accueillir et assister les victimes, j'allais dire, immédiatement.
Oui.
Voilà. Donc, c'est pas effectivement une ligne 24 heures sur 24, c'est pas une hotline, pour parler un peu anglais. Mais néanmoins, on a une réponse très rapide de la part du barreau pour faire face à cette situation-là.
C'est la rapidité d'intervention parce que j'ai en préparant ce dossier, j'ai vu qu'en mai 2023, il y a le rapport parlementaire, le plan Rouge Vif, remis au garde des Sceaux, et qui a émis une cinquantaine de propositions pour améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Et justement, dans la foulée, il y a eu ces fameux pôles judiciaires vifs, spécialement dédiés à la lutte. Donc tout ça, c'est en relation. Vous avez mis en place vous-même de votre côté.
Alors bien sûr, après encore une fois les pouvoirs publics et le parquet notamment, ils ont des structures aussi pour pallier à ces situations d'urgence. Hein. Mm-hmm. Là, je vous parlais simplement du côté des avocats, puisque nous on intervient en parallèle à des procédures qui peuvent exister.
Voilà. Ce qui veut dire que vous aviez mis en place ces mesures dont vous nous parlez avant le plan Rouge Vif.
Hein. Alors on savait déjà un bon bout de temps, entre guillemets, qu'on travaille sur les violences conjugales, sur le sujet.
Comme ça devient un sujet vraiment, un phénomène de société de plus en plus grave et dont on veut, qu'on veut essayer d'éradiquer. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais en tout cas, il y a vraiment des mesures qui sont mises en place, hein, c'est ça.
On fait en tout cas le maximum pour, et je pense qu'on y arrive bien. Souhaitable intervenir.
Oui, je vais compléter. Vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie.
Tout à fait. En fait, on a le barreau du Val-d'Oise a été pilote justement dans la création des pôles spécialisés avant même qu'ils soient inaugurés. Et d'ailleurs, on a eu la visite de notre confrère ancien ministre
garde des Sceaux.
Voilà, Éric Dupond-Moretti qui est venu inaugurer en début d'année. Le lancement des pôles sur le barreau du Val-d'Oise. Donc on était présent, et donc effectivement c'est les pouvoirs publics qui là initient effectivement les démarches pour en faire enfin une priorité qui a toujours existé, hein. C'est juste qu'avant on n'en parlait pas, on prenait pas forcément les plaintes des femmes qui allaient porter plainte en leur disant bon voilà c'est pas grand chose, etc. Donc il y avait tout un problème de prise en charge qui est d'ailleurs pas complètement résolu, mais on progresse effectivement du dépôt de plainte, où aujourd'hui d'ailleurs la victime peut être assistée d'un avocat. C'est important de le dire, on n'a pas le droit de refuser, un commissariat n'a pas le droit de refuser de prendre une plainte quand on est victime d'une infraction, et on peut demander à être assisté d'un avocat, de la même manière qu'on peut demander à être assisté d'un avocat dans le courant des différentes auditions et aussi à la confrontation. Les victimes ne le savent pas, ça. Souvent on pense que le prévenu, la personne mise en examen, elle a son avocat, c'est d'office, etc. Et la victime, elle a rien. Mm-hmm. Non, ça a été rééquilibré. Oui, oui. Et aujourd'hui, les victimes peuvent aussi être assistées d'un avocat. Et d'ailleurs, on a encore là la loi qui a encore augmenté les droits, parce que la place de la victime est en train de changer dans le procès pénal. Avant, on l'écoutait à peine. C'est vrai. C'était un petit peu la dernière roue du carrosse. Donc, c'était quand même elle qui avait été victime et tout était centré sur l'auteur, enfin accusée ou prévenue.
Oui, il y avait un déséquilibre.
Et donc c'est en train de se rééquilibrer. Et d'ailleurs, là, la dernière loi qui est passée, on peut aussi avoir accès maintenant au dossier pénal dès qu'on se constitue partie civile, donc avoir accès à toute l'instruction.
Très bien pour savoir.
Vraiment, les victimes, faites-vous assister effectivement par un professionnel spécialisé ou en tout cas formé à la matière.
Ouais, je voulais s'ajouter que
Stéphane
en tout cas sur le sur le département du Val-d'Oise, effectivement, comme l'a rappelé Souhaita, le tribunal judiciaire était pilote de toutes ces actions-là.
Oui, bien sûr, j'aurais dû
Je vous indiquais simplement, c'est que nous, avocats nécessairement, on était aussi invités à participer à ces évolutions. On a donné les moyens par la constitution de ces groupes-là d'urgence et d'avocats un peu spécialisés. Donc, alors c'est pas à part, évidemment, qu'on avance tous ensemble.
Bien sûr.
Mais je crois que maintenant, le système est quand même assez bien rodé. On peut faire face à toutes les situations, à toutes les demandes.
Oui, vous faites bien de rappeler cette particularité de pilote hein, pour le Val d'Oise, puisque je crois que c'est le téléphone, le bracelet anti-rapprochement qui a été mis à l'essai dans le Val d'Oise, et puis le téléphone grave, également grave danger.
Danger. Hein
Donc ça, c'est...
Et je dirais qu'il y a, un travail en commun aussi avec la juridiction. Il faut savoir que Pontoise est souvent juridiction pilote sur plein de domaines, notamment sur les matières, sur les violences conjugales ou les violences intrafamiliales. Et au tribunal de Pontoise, il y a des référents au parquet qui s'occupent spécifiquement de ce sujet-là. Et il y a une audience qui est dédiée aussi, maintenant, une fois par semaine, aux violences conjugales pour essayer de mettre ces problèmes-là en priorité. Voilà.
Alors, il est souvent question, hein, je me fais un petit peu l'avocat du diable, il est souvent question de lacunes dans le système judiciaire actuel. Selon vous, est-ce le cas pour les violences intrafamiliales et leur traitement? Là, je m'adresse à vous trois.
Je dirais qu'on peut toujours faire mieux, ça c'est évident, puisque on sait pertinemment que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, que généralement la victime, lorsqu'elle est victime de violence, elle cherche une protection immédiate parce qu'elle ne peut pas attendre. On sait que sa vie peut partir en quelques secondes. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'endiguer complètement ce fléau. Simplement, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Oui. Je dirais que le Val d'Oise, quand même, paraît actif. En tout cas, moi, je le vois dans mes dossiers. Il y a quand même des réactions lorsque maintenant des femmes osent franchir la porte de la gendarmerie.
Parce que,
c'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'avant, souvent, elles n'osaient pas porter plainte puisqu'elles savaient qu'automatiquement, il y aurait une information judiciaire, que le conjoint serait prévenu. Elles portaient, déposaient une main courante. La main courante est prise au sérieux. Maintenant, il y a souvent des remontées, même avec une simple main courante. Donc c'est quand même
c'est un vrai progrès.
C'est quand même un vrai progrès.
Le but de cette émission, c'est justement pour que nos auditrices et auditeurs, soient informés et puissent. On fait tout pour communiquer.
Je vais juste compléter ce propos, puisque Souhaiter interviendra juste après, peut-être.
Oui.
Je pense qu'il y a vraiment dans ce pays une prise de conscience de la gravité de la situation, mais à tous les étages. On vous parlait de lacunes, peut-être sur le plan judiciaire. Effectivement, tout système est toujours perfectible. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. On peut aussi parler des plaintes ou des signalements qui sont faits auprès de services de police ou de gendarmerie. Là aussi, faut rassurer nos auditeurs, les policiers et gendarmes sont de plus en plus formés sur la question. On prend beaucoup plus au sérieux aujourd'hui, heureusement, ces plaintes de victimes avec un statut particulier, puisqu'on se déclare victime, c'est certainement vrai. Peut-être que parfois c'est un peu plus délicat de l'établir, etc. Mais il faut que la parole soit prise en considération, et elle l'est de plus en plus. Et je pense que de par ces émissions-là, ou des actions qui sont menées par les pouvoirs publics, et nous aussi, on en fait un petit peu le relais, cette prise de conscience-là va amener à corriger un petit peu les erreurs qui ont pu être commises par le passé, par la non-considération, pour moi. En tout cas, c'est mon avis personnel, de la situation effectivement grave.
Mais c'est vrai, vous avez raison aussi d'insister sur le fait que il y a cette formation dans les commissariats. Moi, j'ai eu l'opportunité de recevoir une personne qui s'appelle Fabienne Boulard et qui est totalement investie pour former justement les policiers à l'accueil des commissariats pour puisque bon, je crois que j'ai l'impression, elle nous disait qu'il y avait encore du, comme vous dites, c'est perfectible, mais bon, de plus en plus ces personnes se sentent concernées.
Oui, nous aussi, on doit faire des efforts en tant qu'avocat, puisque on parle de violence, etc., mais il n'y a pas nécessairement et toujours une réclamation sur le plan pénal. Il peut simplement aussi y avoir des demandes de séparation sans nécessairement passer par l'aspect pénal. Il faut que nous aussi, de notre côté avocat, on puisse entendre aussi ces paroles-là et ensuite diriger la personne vers la bonne procédure, la bonne façon de faire. C'est aussi l'objet de nos formations.
Complètement. Voilà. Et de votre venue ce matin dans mon émission. Je vous propose qu'on marque une pause et puis on reprend ce débat dans quelques instants. À tout de suite.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Alemo, bâtonnier au barreau du Val d'Oise, Sveta Panagas, avocat, membre du Conseil de l'Ordre, Corinne Le Foulgoc Delmouli, avocat, membre du Conseil de l'Ordre. Alors Stéphane Alemo, merci hein, pour toutes les précisions que vous nous avez données tout à l'heure. Puis merci d'avoir initié ce débat qui, une fois encore, nous fait prendre conscience de l'ampleur de ces violences intrafamiliales, mais également des moyens de reconstruction des famille, c'est le but recherché. J'ai annoncé des chiffres tout à l'heure qui font froid dans le dos. Je voulais aussi revenir, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec vous, Sveta et puis Corinne, que on disait qu'il était extrêmement difficile d'aller déposer plainte. C'est souvent un tsunami. Il y a les enfants, mais ces femmes vont se retrouver face à l'institution judiciaire avec toute la complexité, sa complexité. Il y a une multitude de choses à faire en termes de logement, de protection. Pour elles, c'est souvent un raz-de-marée.
Oui, c'est surtout que la...
Sveta Panagas.
C'est surtout qu'en fait... Pardon.
Non, je vous annonce pour que les auditeurs sachent qui parle.
C'est surtout que la problématique, c'est que, en fait, les féminicides ou les violences sont exacerbées au moment de la rupture. On sait que c'est un point très sensible et elles risquent leur vie, en fait, au moment où elles partent, sachant que c'est déjà très compliqué de partir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'emprise qui était de mieux en mieux reconnue. Et je vais aller encore plus loin. En fait, on est en train d'évoluer vers un autre concept qui est celui du contrôle coercitif.
Oui.
L'emprise, c'est par rapport à la victime. Le contrôle coercitif, c'est un changement de paradigme où on regarde du côté de l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez regarder le mécanisme par rapport à la manière dont la personne va finalement rendre captif la personne pour la couper des autres,
oui, la contrôler totalement.
Voilà, la contrôler, oui. Effectivement, voilà, c'est le terme contrôle coercitif, donc c'est la contrôler, mais de manière insidieuse, mm-hmm. progressive, et de telle sorte, un peu comme la grenouille que vous mettez dans l'eau bouillante et qui se rend pas, enfin, que vous, oui. dans l'eau, qui, que vous faites qui, bouillir qui, un petit qui, feu et qui va pas qui sortir, pas, oui, qui va oui. pas sauter, et ben, c'est un peu pareil, la femme victime, bon, je dis la femme parce qu'on est c'est 86%, souvent, etc. Mm-hmm. Alors, voilà, il y a des,
il y a aussi des hommes,
on le sait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la violence est quand même majoritairement masculine et c'est les femmes qui sont les premières concernées. Et donc, c'est très, très compliqué parce qu'effectivement, c'est un mécanisme progressif qui se met en place. Et aujourd'hui, on a plusieurs acteurs qui, effectivement, ont mis en exergue en France cette notion de contrôle coercitif qui va montrer la manière dont la personne, l'agresseur, va finalement emprisonner sa victime. Et ça va être en coupant le téléphone, les moyens de carte bleue ou en surveillant ses actes.
Dans la voiture, petit à petit.
Et on voit aussi beaucoup ça chez les jeunes aussi, de plus en plus, qui ont ces modes de fonctionnement beaucoup plus coercitifs. Et en fait, c'est... aujourd'hui, on a du coup cette notion qui apparaît, qui commence à apparaître dans les décisions de justice et qui permet du coup beaucoup plus finement de comprendre les mécanismes de la violence qui sont souvent pas faciles à identifier parce que faut pas attendre effectivement les coups physiques. On a aussi ces mécanismes-là
qui sont psychologiques.
Voilà, oui, psychologiques, ces violences psychologiques et qui sont tout aussi dévastatrices. Et on a la Cour d'appel de Poitiers notamment qui a récemment reconnu ce concept de contrôle coercitif.
Complètement, on a les mêmes. on a les mêmes bases. Oui, je vois qu'ils ont. Ils ont pour la première fois intégré ce concept dans la rédaction de 5 arrêts comme une atteinte aux droits humains en ce qu'il empêche la victime de jouir de ses droits fondamentaux. Donc c'est une belle avancée certainement pour vous tous, avocats,
c'est ça,
pouvoir tabler sur ce genre d'arrêts.
Tout à fait, parce que en plus les arrêts sont très explicatifs, donc ça donne un peu aussi une méthodologie, une manière de faire pour justement aller au cœur de la violence et pouvoir
la percevoir
le long de.
Et ce que je voudrais dire à la radio, là, à ce micro, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions éventuellement sur une attitude dans leur couple. Il y a donc, vous avez parlé de la surveillance téléphonique, traceur dans la voiture. Il y a les dépenses scrutées, le dénigrement, le chantage permanent. Donc si malheureusement ces personnes cochent toutes ces cases, il faut qu'elles réagissent.
Les menaces au suicide aussi.
C'est ça.
Le chantage.
Le chantage affectif, ouais. Par rapport aux enfants aussi qui sont instrumentalisés très souvent dans les conflits, dans ces violences-là.
Oui, parce que on parle aussi, il y a un terme qui revient souvent maintenant, c'est le terme de sidération, donc qui est aussi très explicite, je crois.
Corée, oui, si et puis il y a le phénomène de l'emprise en fait.
C'est ça.
C'est ça qui est très compliqué en fait dans les violences conjugales, intrafamiliales. C'est que par définition, il y a une relation d'amour à la base, mm-hmm. et qu'on comprend pas comment le prince charmant a pu devenir un bourreau en fait.
Monstre, oui.
Et c'est vrai que surtout quand on a en plus construit une famille, il y a le problème des enfants. Et comme disait, je crois, Pierre Perret, on reste à cause des gosses ou je sais.
Oui, oui.
Voilà. Et souvent, on se dit mais comment ça va se passer ? Et souvent, comme vous parliez de coercition, justement, il y a une espèce d'emprise aussi économique qui se fait, où la victime est quelque part démunie, n'a plus accès aux documents, ne sait pas comment faire pour partir. Et c'est vrai que c'est très compliqué de se rendre compte parce qu'il y a la volonté, il y a l'histoire personnelle aussi de la victime, quelquefois aussi qui fait qu'elle reste dans ce phénomène-là parce qu'elle n'a connu que ça et en fait elle ne connaît pas autre chose. Donc ce phénomène de l'emprise psychologique est extrêmement important et la victime ne peut s'en sortir que quand elle prend conscience qu'elle est elle-même victime de violence.
Complètement.
Oui, c'est ça le problème. Et elle ne peut avancer qu'à ce moment-là. Et on ne peut l'aider qu'à ce moment-là. Et d'ailleurs, juste pour dire, il y a un système qui a été mis en place. Alors là aussi, Pontoise et, enfin, le Val d'Oise et juridiction, enfin, et département pilote, sous le PAC Nouveau Départ.
Oui.
Vous en avez entendu parler.
Bien sûr.
Qui a été mis en place principalement, enfin voilà, sous l'égide de la CAF ou de la MSA, pour des personnes qui se déclarent victimes de violence. violences conjugales et qui manifestent en fait le souhait d'être accompagnées quand elles souhaitent quitter. Alors il y a cohabitation ou pas cohabitation, mais dès lors qu'elles souhaitent se séparer de leur mari, compagnon, concubin, partenaire, etc., elles peuvent avoir recours à ce système où il y a un réseau qui a été mis en place. Justement, vous parliez des difficultés d'hébergement, les premières aides, etc. Donc il y a ce réseau qui a été mis en place qui peut déjà les aider. Sachant qu'elles peuvent prendre aussi contact auprès d'associations qui peuvent les aiguiller, puisqu'en fait, il y a un système de détecteurs et de référents sectoriels qui a été mis en place.
J'avais eu la chance de pouvoir interviewer Isabelle Rome quand elle était ministre, déléguée via
l'égalité homme.
Via votre confrère. Émilie Chandler, qui a quand même beaucoup œuvré, je crois, pour ces violences intrafamiliales.
Elle était rapporteuse.
Oui, c'est ça.
Et effectivement, Madame Rome, on connaît très bien, puisqu'elle était aussi magistrate à Pontoise, maintenant elle est à Versailles. Elle a beaucoup œuvré.
Oui, elle est très investie.
Oui, voilà, effectivement. Et on était, nous, impliqués dans la concrétisation de sa politique dans les tribunaux judiciaires. Il faut savoir que assez fréquemment, elle faisait en sorte aussi d'inviter le milieu, le monde des avocats à toutes ces réformes préalablement à ce qu'elles soient mises en place. Il y a eu toute une étude, un rapport qui a été fait, notamment par Emily Chandler, hein, c'était deux, elle était députée à l'époque, il y avait une sénatrice aussi, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi.
Dominique Verrien.
Voilà, Dominique Verrien, on avait été, nous aussi, été auditionnés en tant qu'institution des avocats sur la mise en place de toutes ces mesures. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine.
Donc, et c'est bien d'en parler ici à l'Économie en direct. Il y a des émissions si régulières sur le sujet, mais vraiment, je suis ravie que ce matin que vous ayez pu venir pour en débattre. Je vous propose une nouvelle pause et puis Sveta, on va un peu découvrir plus votre activité puisqu'elle est très ciblée également.
D'accord.
À tout de suite.
Sur la route toute ta sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Comment la justice s'empare-t-elle des violences intrafamiliales mises en lumière ces dernières années par la douloureuse réalité des chiffres et la voix des associations de victimes ? C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Alemo, bâtonnier au barreau du Val d'Oise, oh là là, je bafouille, Sveta Panagas, avocat, membre du Conseil de l'Ordre, et Corinne Le Foulgog Delmouli, avocat, membre du Conseil de l'Ordre. Et nous parlons ce matin des violences intrafamiliales. Sveta Panagas, donc vous, je l'ai dit en préambule, vous êtes avocate depuis 18 ans au barreau du Val d'Oise, fondatrice du cabinet Plume de Phoenix, avocat de la résilience. Et en lisant votre parcours, je trouve que ce terme résilience vous va vraiment bien.
Merci, je vais vous expliquer.
Je vous laisse nous raconter votre parcours et puis votre spécialisation.
Très bien, je vous remercie. Oui, alors avocat de la résilience, en fait, c'est parce que effectivement, je défends des victimes qui ont connu des traumatismes graves et qui doivent se reconstruire effectivement après l'infraction ou l'accident, et dans ce parcours de résilience, voilà, je les accompagne pour qu'elles puissent reconstruire une vie avec une indemnisation, puisque mon rôle est d'obtenir la meilleure indemnisation possible pour ces victimes. Et donc moi, je suis spécialiste des victimes en droit du dommage corporel. Alors la spécialité pour les avocats, c'est un titre protégé. On a des certificats de spécialisation, sinon ce sont des activités dominantes. Mmh. Et donc moi, je fais partie des rares spécialistes du Val d'Oise. Et donc le cabinet s'occupe des accidents graves de la route et aussi de tout ce qui est accidents médicaux, violences. Mais quand il y a un impact sur l'autonomie des personnes et un handicap grave. Voilà. Et aujourd'hui, donc je suis formée au traumatisme crânien de l'enfant et au syndrome du bébé secoué. Oui. Je viens de terminer également une expertise médico-légale de l'enfant, justement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le traumatisme crânien et aussi aujourd'hui sur, du coup, les enfants. Et c'est de ce dont je vais vous parler aussi maintenant, puisque les enfants, effectivement, font partie de ce nouveau socle des violences intrafamiliales. Et c'est les grands oubliés. Il faut savoir que les enfants, pendant des siècles, ils n'avaient pas de droit, pas d'existence. On avait un droit de vie et de mort sur eux. Mmh. Ils étaient à la merci de ceux qui étaient censés les protéger. Et petit à petit, on s'est dit, bon, quand même, voilà, et des droits leur sont connus, mais ils peuvent pas les défendre eux-mêmes, vous voyez, donc c'est par la médecine s'est fait progressivement et par un changement.
C'est complexe.
Voilà, c'est ça. Et mais encore aujourd'hui, c'est complexe parce qu'en fait, les enfants, les tout petits, ne parlent pas et dénoncer les personnes qui sont censées vous élever, vous protéger, c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte que le mal est d'une banalité. Affligeante, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été maltraitées, que ce soit physiquement, psychologiquement, sexuellement. Et donc, c'est un véritable fléau, mais qui est très, très répandu, quoi. On parlait des plaintes tout à l'heure. En fait, c'est la partie émergée. Tous les chiffres qu'on dit, je tiens à le dire, parce que les chiffres, c'est des statistiques qui sont soit ministérielles, soit de sources plus ou moins fiables. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les violences, elles sont sous-évaluées à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ceux qui les dénoncent, mais aussi de ceux qui les diagnostiquent. Et on en parlera pour le bébé secoué. C'est une réalité. Aujourd'hui, tous ces chiffres sont sous-évalués, soit parce qu'il n'y a pas de diagnostic, soit parce que les personnes ne parlent pas. Voilà.
Parce que le bébé secoué, c'est... s'il n'y a pas de vraiment de dommages corporels, finalement, on ne le saura pas.
Alors, en fait, la problématique du bébé secoué, puisque alors c'est un traumatisme crânien qui est non accidentel. Alors, faut peut-être déjà préciser qu'est-ce qu'un secouement, parce que en fait, le secouement, c'est pas c'était un accident. Mmh. C'est vraiment un acte volontaire.
Répété.
Alors, d'abord volontaire, d'une extrême violence. C'est pas genre juste, voilà, je l'ai bougé, je l'ai posé un peu brusquement dans mon lit. Oh bah voilà, c'est vraiment un secouement où on saisit le bébé sous les aisselles par le thorax et on le secoue de généralement d'avant en arrière et vous avez la tête qui va d'avant en arrière et qui cogne le cerveau qui cogne. Alors oui, insensible,
oui, parce que le cerveau est mobile voilà. dans le crâne.
Voilà.
Oui.
Et en plus, il occupe pas tout pour les bébés, il occupe pas toute la boîte crânienne, ce qui fait que il va cogner d'avant en arrière. Donc je vous ai ramené le poupon en démonstration,
on va le prendre en photo.
Voilà, on le prendra en photo. Mais j'ai fait des vidéos, vous pourrez les voir si vous le souhaitez. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de montrer que le cerveau cogne contre la boîte crânienne et en fait ça crée des lésions intracrâniennes et qui sont spécifiques. Et là, je vais tout de suite dire un mot parce que je suis assez scandalisée de la médiatisation aujourd'hui des personnes qui se disent accusées à tort et qui vont nous expliquer sur tous les plateaux télé, surtout dans tous les magazines et dans beaucoup d'émissions que les séquelles peuvent être... comment dire, que les séquelles du bébé secoué peuvent être confondues avec d'autres diagnostics, comme l'accouchement, comme une rupture de, comme des maladies de coagulation, etc. Alors qu'en fait, le diagnostic du bébé secoué, il a été protocolé.
C'est ça.
On a des recommandations de la HAS qui ont été faites en 2011, qui ont été actualisées en 2017 et qui sont encore en train d'être actualisées. Et on a des avocats de la défense, très efficaces, on peut dire, qui ont été jusqu'au Conseil d'État pour contester ces recommandations en disant qu'elles n'étaient pas fiables, etc. Et ils se sont fait retoquer. Mais ils continuent dans les médias à être très volubiles et avec une certaine forme de pathos où vraiment, moi je les ai vus, les reportages, on a envie de prendre fait et cause pour les personnes soi-disant accusées à tort. Alors il y en a certains qui ont été innocentés, donc ça c'est une réalité judiciaire, mais il y en a certains qui ont même été condamnés et qui viennent sur les plateaux télé dire que ces violences-là, qu'ils sont innocents,
vraiment,
quoi.
C'est ça, oui.
Et que les médecins se sont trompés, qu'ils sont victimes d'une erreur judiciaire, et les erreurs judiciaires, elles sont systématiquement du côté des condamnations. Alors que moi, ce que je pense, c'est que comme je vous expliquais, les diagnostics sont sous-évalués, les jurys sont perdus parfois parce que c'est des réalités médicales qui sont très complexes. Quand on dit hématome sudural, hémorragie rétinielle, rupture des veines pont, on perd 90% des gens. Sachant que les ruptures du veine pont, on les a que dans les bébés secoués et dans les accidents à forte cinétique. On les a pas dans les autres maladies. Donc déjà, dès que vous avez des ruptures de veine pont, les gens viennent vous dire que c'est déjà compliqué. Après, il peut y avoir des antécédents et tout ça, des facteurs favorisants, mais en tout état de cause, le bébé secoué, c'est quand même quelque chose qui peut être bien diagnostiqué, qui est protocolé et qui mérite qu'on en parle parce que voilà. En tout cas, s'il y a un message qu'on peut faire passer aujourd'hui, c'est qu'on ne secoue pas un bébé. Secouer tue. Plus de 13% des bébés décèdent et 75% gardent des séquelles irréversible, d'accord. Il y a une très infime partie de qui n'a rien. Et vous le disiez très bien, les secouements sont répétés. On s'est rendu compte, c'est pas juste un pétage de plomb, quelqu'un était exaspéré par les pleurs et qui a secoué le bébé. Non, la réalité qui aujourd'hui est démontrée par les études scientifiques, c'est que ça devient un mécanisme pour faire taire le bébé, et donc c'est une violence répétée. Et le problème ne vient pas de l'enfant qui pleure, mais de l'adulte qui est dans l'incapacité de contrôler sa violence et de contrôler sa frustration. Et donc voilà, la gestion des émotions, ça s'apprend. Et quand on a un problème, quand on est dans cette situation, il vaut mieux poser son bébé, le mettre sur le dos, en sécurité dans le lit, et sortir, hurler, crier, appeler de l'aide. Mais je regrette aussi que les politiques publiques ne fassent pas assez de prévention. Aujourd'hui, tout le monde devrait savoir que secouer un bébé, ça tue, et ces infractions-là devraient non plus être sous la forme de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais être même poursuivies sous la forme d'homicide, puisque si tout le monde savait que secouer un bébé tue, on saurait que dès qu'on secoue un bébé, on commet un meurtre.
Sveta, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce qu'il y a quel est le pourcentage de bébés secoués? Vous le connaissez?
Alors toujours pareil.
Oui.
Les chiffres.
Si c'est,
voilà.
Aujourd'hui, surface,
il faut savoir marché. Qu'il y a une partie des bébés qui ne sont pas diagnostiqués, qui sont secoués, qui ne sont pas diagnostiqués parce que leur état n'est pas suffisamment grave pour qu'ils arrivent à l'hôpital. D'accord. Ce qui fait que ces bébés-là, ils vont grandir. Et le sang va se résorber dans le cerveau. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir des fois des difficultés orthophoniques, tous les 10, dyslexie, etc. Mm-hmm. Et ce sera été lié à un secouement, mais il n'aura pas été forcément diagnostiqué à temps. Alors, selon les chiffres, je vous l'ai dit avec des pincettes, parce que pour moi, ils sont pas forcément fiables, mais on parle de 400 à 500 bébés secoués au moins. On demande à un observatoire et qu'il y ait des codes aussi qui soient mis dans les hôpitaux pour pouvoir diagnostiquer précisément les cas de bébés secoués, les cas de violence infantile, etc. Mais aujourd'hui, c'est encore très, très sous-évalué. C'est très dur d'estimer les violences infantiles.
Et peut-être aussi, ce qui serait bon, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire quand...
Oui, alors il y a des associations qui sont superbes.
Dans les, dans les maternités, mettre des panneaux
commence,
hein, pour...
Ça commence, en fait, moi... Quand j'ai accouché, il y avait pas de, j'ai eu aucune information sur le bébé secoué. Mais aujourd'hui, il y a effectivement de plus en plus d'informations. C'est pas encore totalement démocratisé. Vous avez la mention dans le carnet de santé. Il y a certains hôpitaux qui sont à la pointe et qui le font super bien, mais c'est encore inégal. Comme la formation des professionnels, parce qu'un bébé secoué qui n'est pas diagnostiqué. Alors il faut savoir que les bébés secoués, ils passent souvent pour des cas de gastro, de reflux gastro.
Ou des malaises.
Voilà, parce qu'en fait, oui, il faut qu'il soit amené à l'hôpital pour voir les lésions au cerveau. Et en fait, les lésions neurologiques passent des fois pour des... Donc voilà, c'est une vraie difficulté. Et donc, vous parlez de la prévention. Il y a des associations qui sont spécialisées. Donc, je vais les citer. Il y a Action contre les violences infantiles avec Aude Lafitte qui s'est engagée dans cette cause, qui est une maman qui a elle-même perdu son bébé de secouement. On a Stop Bébé Secoué. On a France Bébé Secoué. On a Prévention Maltraitance Infantile. Et là, il y a un collectif qui vient de se créer, Tous pour Lou aussi, pour une petite fille qui vient de qui est encore hospitalisée d'ailleurs, une pensée pour elle et ses parents, qui est encore hospitalisée au Havre et qui est en train d'essayer de réapprendre à manger.
Ah oui.
Voilà.
Ouais. Une petite fille une petite fille de quel âge?
Elle a 8 mois, je crois.
Ah oui. Ouais. Oui, c'est.
Ses parents la veille à l'hôpital.
Mais alors, du coup, j'ai deux autres questions. D'abord, est-ce que vous êtes nombreux au barreau du Val d'Oise à être spécialisés dans ce domaine?
Non, là, non. Pour le coup, on est très rares à être spécialisés. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Et effectivement, il y a la spécialisation en dommages corporels et la formation, parce que pour traiter ces dossiers de bébé secoué, il faut quand même idéalement avoir une formation de traumatisme crânien de l'enfant et syndrome du bébé secoué, idéalement pour le faire. Donc on est assez rare à être
Stéphane Alimo, vous voulez ajouter quelque chose?
C'est effectivement un domaine un peu plus particulier que les autres, mais néanmoins, comme je le rappelais tout à l'heure, on a quand même un barreau de presque 500 avocats, dans lequel il y a un groupe d'avocats de défense des victimes. Défense des victimes, c'est assez large comme spectre, ça c'est tout à fait vrai. Mais chacun d'entre eux, après, œuvre peut-être dans des domaines plus ou moins particuliers. Mais encore une fois, quand on fait appel à un avocat en défense des victimes, les bébés secoués en font partie aussi. Après, effectivement, pour ces cas particuliers, il faut peut-être avoir des connaissances un peu plus pointues.
Un avocat très spécialisé, bien sûr.
Voilà, un peu plus pointu, mais... Voilà.
Non, mais je voulais dire que c'était une valeur ajoutée pour votre barreau.
Oui, tout à fait.
Oui,
on en a des valeurs ajoutées pour le barreau.
Vous en avez beaucoup.
On a beaucoup de talents sur notre barreau.
On va tous les faire venir dans cette émission.
On va faire 485 émissions. Oui, je serai là à chaque fois.
Avec plaisir. Sveta, donc ma question, c'est cette appétence pour ces sujets. Vous l'avez voulu ou c'est quand vous avez démarré votre métier d'avocat, vous êtes trouvé dans un cabinet qui traitait de ça? Comment ça s'est passé?
Alors moi, c'est assez particulier parce qu'en fait, j'ai toujours eu la vocation de vouloir être avocate et j'ai toujours eu cette appétence pour défendre le plus faible. Sauf que quand je me suis installée, quand je me suis après mes études, paradoxalement, le premier cabinet dans lequel j'ai exercé, c'était un cabinet de droit des affaires.
D'accord, donc pas
rien
du
à
tout,
voir. Ouais. Voilà. Et en fait, quand je me suis installée à mon compte, là effectivement, j'ai eu une clientèle plus généraliste et j'ai eu dans ma clientèle plusieurs victimes. Et bon, c'est quelque chose qui résonnait aussi avec mon histoire personnelle. Donc tout ce qui était victime d'accidents, etc. Donc j'ai commencé à m'en occuper et je me suis rendu compte que c'était quand même un domaine très particulier qui nécessitait une expertise particulière puisque l'indemnisation des victimes répond à une nomenclature qui est très technique, qui est la nomenclature d'Intiac. Et donc je me suis formée petit à petit jusqu'à passer plusieurs diplômes en formation, d'abord les diplômes de dommages corporels et après petit à petit me spécialiser. Et bon, alors après je suis une éternelle apprentisseuse,
apprentie.
Et donc j'ai la passion qui fait que chaque année, enfin régulièrement, je fais des nouvelles formations parce que c'est ce qui nous rend meilleurs et il y a l'interprofessionnalité aussi. On parle des avocats, mais les avocats ne travaillent pas seuls. On travaille en partenariat avec plein d'autres professions et l'interprofessionnalité permet un regard global, systémique, qui permet d'avoir une vision. Donc nous, on travaille en droit des affaires, il y a des partenariats effectivement avec les experts comptables, etc. Donc, et moi, dans mon domaine, c'est avec les médecins. On a des médecins conseils des victimes. Quand moi, j'accompagne des victimes, il y a toujours un médecin conseil. Elles y vont jamais seules. Elles sont pas seules devant l'autre médecin. Et voilà, il y a un vrai accompagnement qui se fait de A à Z. Donc si on peut faire passer un message aux victimes, passer la porte des cabinets d'avocats pour aller voir des avocats, soit spécialisés,
déjà
soit formés par le groupe de défense.
Un simple avis.
Voilà, et puis voilà. L'avocat peut aussi intervenir en prévention, j'ai envie de dire, ou en accompagnement. On voit souvent, s'il y a un autre message que je veux faire passer, on voit souvent l'avocat comme, allez, la robe, les tribunaux, la guerre. On y va. Mais on sait le faire, on est très bon pour ça. Mais on est aussi très bon pour conseiller en amont et essayer peut-être de désamorcer des situations avant qu'elles deviennent catastrophiques. Et le conseil, moi, j'accompagne beaucoup de victimes d'accidents de la route, notamment, parce que les accidents de la route, souvent, ils reçoivent une offre d'indemnité et, voilà, ils se disent bon bah voilà c'est pas mal, ils savent pas. Alors qu'en fait ils auraient été voir un cabinet d'avocats, ils auraient peut-être eu 10 fois plus se faisant accompagner. C'est pas juste du marchandage de tapis.
Il y a
une expertise, on les fait accompagner par des médecins. On fait chaque poste de préjudice et on peut vraiment augmenter la mise. La plus-value d'un avocat formé, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc il faut avoir ce réflexe avocat. On a un réflexe médecin traitant. Il faut développer le réflexe avocat. Prenez des avocats dans les problématiques que vous avez. Et pareil, en droit du travail, par exemple, Stéphane pourra vous le dire, n'attendez pas de recevoir votre convocation à un entretien de licenciement. Prenez dès votre premier avertissement, allez toquer à la porte parce que ça sonne déjà, ça sonne peut-être déjà mauvais.
Ah non, mais tu as parfaitement raison. Je vais abonder dans ton sens. On parlait tout à l'heure de formation des avocats.
Un
bon avocat, c'est pas simplement un bon juriste. Il faut avoir une formation un peu pluridisciplinaire pour élargir un petit peu notre façon de voir les choses et d'appréhender les dossiers. Ça, c'est vrai dans toutes les matières, en victimologie, en droit du travail, etc. Évidemment, je souscris à cela. Juste sur le rôle de l'avocat en amont de procédure. Effectivement, tu as parfaitement raison. N'attendez pas le dernier moment pour saisir un avocat.
Préalablement, c'est tout. Au moment où ça sent vraiment
En matière d'indemnisation, notamment des victimes, quelles que soient les victimes, parfois on peut recevoir, quand on est justiciable, une proposition d'une compagnie d'assurance qui vous propose un chiffre qui peut paraître, entre guillemets, assez alléchant parce que le montant est assez intéressant. Et en réalité, il est bien en deçà.
Il est bien au-delà de la
réalité. Alors, je ne veux pas faire un faux procès aux compagnies d'assurance.
On a bien compris.
Il faut dire que si à ce moment-là, on peut. Peut-être parfois dans certains cas, bon, moi je ne vais pas citer d'exemple précis, mais voilà, là c'est un exemple très concret où effectivement le fait de saisir un conseil, un avocat en l'occurrence, permet d'éviter de tomber dans ces pièges-là, d'avoir une juste indemnisation parce qu'on ne demande pas plus que notre droit.
Que ce dont
on aurait droit.
Oui.
Un dernier mot, on a un partenariat aussi avec le procureur de la République pour une meilleure information des victimes d'infractions pénales, du fait qu'elles puissent être assistées d'un avocat et ce, dès le dépôt de plainte d'une victime. On les avise qu'elles peuvent saisir un avocat pour les accompagner tout au long du procès judiciaire qui peut aussi paraître compliqué parce que très bien, je suis victime. Comment je fais pour me constituer partie civile? Qu'est-ce que ça veut dire constituer partie civile? Est-ce que je peux demander dommages intérêts? Combien? Quand? À qui? Les victimes ne le savent pas. C'est tout à fait compréhensible. Chacun son métier. Voilà. Moi, je fais pas de la comptabilité. Je suis pas expert comptable. Donc, j'aime pas quand les experts comptables font de l'ordre de travail, par exemple. Mais voilà, chacun son métier. Et je pense qu'effectivement, on gagne, nous aussi, à se faire un petit peu plus connaître. Il faut que vraiment les gens aient le réflexe. Comme le disait très bien Souhaitard, on a un médecin de famille. On pourrait avoir un avocat de famille. Voilà. Faut pas l'oublier.
Merci Stéphane Alamo, vous avez très bien plaidé pour votre cause.
Pour votre cause. On a un site internet où vous pouvez consulter et, en fonction des activités des avocats, vous trouverez nécessairement chaussures à votre pied.
Merci infiniment. Merci Sveta Panagas, merci pour votre engagement dont on sent qu'il va bien au-delà de votre activité professionnelle. D'ailleurs, vous disiez dans mon petit questionnaire, je demande quels sont vos besoins. Vous m'avez mis de trouver la frontière entre la vie professionnelle et personnelle, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est trouver l'équilibre vie privée, vie professionnelle. D'ailleurs, j'ai intégré la commission bien-être de notre barreau parce que voilà, on s'occupe tout le temps des autres, mais il faut qu'on s'occupe aussi de nous-mêmes, parce que les avocats sont des êtres humains comme les autres. Et donc, je contribue aussi au bien-être de mes confrères avec Corinne, avec Monsieur le Bâtonnier, dans le cadre de la commission bien-être, où on est en train de mettre en place des outils de meilleure organisation effectivement d'avoir des bulles pour toujours mieux vous défendre.
Merci infiniment. On dit que la musique adoucit les mœurs, hein, donc on écoute un peu de musique avant de poursuivre dans quelques instants. À tout de suite.
I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. Wanna move a thing? It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide, and I won't go. I won't sleep. I can't breathe. Until you're resting here with me, and I
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission dans laquelle nous parlons aujourd'hui des violences intrafamiliales, mais aussi des bébés secoués, un vrai sujet, avec mes trois invités, Stéphane Alemo, bâtonnier au barreau du Val d'Oise, Sveta Panagas, avocat, membre du Conseil de l'Ordre, Corinne Le Foulgoc Delmouly, avocat, membre du Conseil de l'Ordre. Et nous continuons ce débat très instructif avec vous, Corinne Le Foulgoc Delmouly. Donc, vous exercez une activité dominante en droit de la famille et du patrimoine depuis de nombreuses années. Je vous laisse aussi dire un mot de votre parcours, Corinne.
Alors moi, notre bâtonnier nous disait tout à l'heure qu'il avait prêté serment au siècle dernier, en 99. Alors moi, je suis encore plus âgée.
Vous n'allez pas dire qu'il y a deux siècles.
Voilà. C'était encore plus... C'était avant, puisque c'était en 94 à Paris.
Comme c'était hier.
J'ai commencé chez un avocat d'affaires. Et dans le cadre du développement de ma clientèle personnelle, j'ai commencé à traiter d'abord des dossiers d'aide juridictionnelle, où j'ai eu c'est là où je me suis familiarisée avec la matière familiale, donc c'est venu très tôt. Et puis, lorsque je me suis installée dans le Val d'Oise, comme Sveta, j'étais d'abord généraliste et je traitais différentes matières. Mais c'est vrai que j'ai eu de plus en plus de dossiers en droit de la famille. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est pour ça que je me suis orientée vers cette matière. Très tôt, je me suis formée et j'étais sensibilisée aux modes amiables. On parle des violences conjugales aujourd'hui, c'est pas adapté.
Oui.
Mais dès le départ, et notamment sous le bâtonnat d'Yves Paruel, on parlait de médiation en 97-98.
Ah oui, donc vous étiez très en avance, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet.
Voilà, et ça a commencé très tôt, parce que ça nous venait du Québec, souvent comme ces matières-là. Et après, donc, je me suis formée à la médiation. Ensuite, il y a eu... le processus collaboratif une dizaine d'années plus tard, où j'étais la première avocate du Val-d'Oise à être formée sur le processus collaboratif, qui est un autre mode amiable, là, pour le coup, fait par les avocats. C'est très spécifique. Et c'est vrai que ces techniques, enfin, ces modes amiables m'ont appris, effectivement, des techniques comme l'écoute active, qui est extrêmement importante et qui est extrêmement importante, notamment dans ma pratique.
Alors, et l'écoute active,
L'écoute active, c'est très important parce que c'est vrai que quand une personne vient nous voir, que ce soit homme ou femme, d'ailleurs, dans un problème familial, c'est pas toujours des violences, heureusement, de toute façon, généralement, ils vont mal, C'est vrai qu'on leur demande comment ils vont, mais généralement, ils vont pas très bien quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont un problème. Et c'est vrai que, au-delà du conseil juridique, c'est important de les écouter. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que j'aime les gens.
C'est un aspect psychologique très important.
Très important. C'est très important. Parce qu'au-delà du conseil, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est vrai que j'aime les gens. Donc c'est vrai que c'est une matière qui m'a, qui m'a plu et qui était faite pour moi, de toute façon. Donc c'est vrai que, à un moment donné, j'ai décidé, alors non pas de passer la spécialisation, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui m'est empêché. Donc je sais pas si je la passerai un jour, mais bon. Mais en tout cas, j'ai de focaliser mon activité essentielle sur cette matière-là.
Corinne, on a dit au début de l'émission que les violences n'étaient pas que physiques, elles peuvent être psychologiques, économiques,
sexuelles.
Sexuelles, oui. Justement, sur les violences économiques et psychologiques qui sont toujours très destructrices, comment parvenez-vous à prouver ces violences, puisque le propre d'un avocat, c'est d'arriver à prouver ce que dit votre cliente. Donc c'est plus subtil. Voilà.
C'est très difficile parce que en réalité, lorsqu'on porte l'affaire sur le plan judiciaire, le juge lui va regarder le dossier et va voir les preuves. Donc c'est vrai que généralement on va regarder les messages, les SMS, les relevés bancaires aussi. On essaie de pour ces matières-là, on essaie de voir effectivement les échanges qu'il y a pu avoir, les ruptures d'informations qu'il a pu avoir, tout ce qui peut démontrer effectivement. On voit aussi quelquefois des interventions sur la CAF, où on voit un conjoint qui finalement s'arrange pour se modifier le compte et se voir octroyer les aides familiales au lieu des places
de la maman.
Pour la priver en fait de ressources et pour la maintenir au domicile.
Oui, c'est sur on l'emprise. Revient sur le problème de l'emprise. Oui, absolument. J'ai noté aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, tous les trois, hein, vous disiez Sveta, vous disiez que avant les victimes étaient complètement oubliées, on parlait plus de l'auteur que de la victime. Et j'ai relevé une intervention de Gwenola Jolie-Cause, hein, que oui. Vous connaissez bien, non,
bien
aussi.
Sûr.
Et elle disait j'ai été jeune juge aux affaires familiales et j'ai fait des choses aujourd'hui que je ne referai plus. J'ai changé, je ne suis plus la même juge qu'il y a 20 ans et heureusement, un des meilleurs exemples, c'était cette doxa qui nous faisait croire qu'un mauvais mari pouvait être un bon père.
C'est ce qu'on disait.
Nous savons aujourd'hui que c'est faux.
Il y a des années, je me souviens très bien, j'avais eu une affaire comme ça de violence, une de mes premières affaires quand je suis arrivée sur le Val d'Oise, où un juge, c'était un peu la doctrine à l'époque, de dire on peut être un mauvais mari mais un bon père. Et heureusement, ça a changé. Oui. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a des violences sur conjoints, souvent ça se fait en plus en présence de l'enfant.
Des enfants.
Il y a des répercussions. Et d'ailleurs, il y a une formation qui doit s'organiser par la cour d'appel, parce qu'il y a des formations qui sont organisées aussi par la cour d'appel sur les violences intrafamiliales, qui portent sur l'impact psychologique des violences sur les enfants, justement.
Est-ce qu'il vous arrive de dire à vos clientes, on reste dans le domaine violence intrafamiliale, pourquoi elles ne sont pas parties plus tôt? Ça vous arrive
Non, je ne pose pas cette question. Non, parce qu'on sait très bien, non, parce que ce serait
culpabilisé. Le juge peut la poser, mais pas vous, en tout cas.
Présenté comme ça, ce serait culpabilisant.
Oui, oui, oui.
En revanche, on va regarder si effectivement il y a eu si c'est la première fois ou s'il y a déjà eu des violences dans le passé. Et puis c'est là, en écoutant, on peut écouter les blocages qui font pourquoi effectivement ils n'ont pas porté plainte. Et souvent, de toute façon, ils nous disent simplement porter plainte contre son mari, son conjoint, c'est extrêmement compliqué. C'est le père des enfants. Mm-hmm. Donc c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas être dans le jugement
quand on les écoute,
mais essayer justement de les aider à prendre conscience qu'elles sont victimes. Ça, c'est important. Parce que souvent, il y a un parcours où elles peuvent dire qu'elles ont été violentes, mais en même temps, il y a une espèce de déni. Et en fait, elles font souvent marche arrière.
Oui. Quand mise au pied du mur du procès, elles peuvent faire marche arrière. Oui, c'est terrible.
Hein, même porter plainte. Avant. Parce que c'est aussi la peur de l'avenir, la peur de la précarité.
De se retrouver seule et de... Bien sûr. Sveta, vous vouliez ajouter
quelque chose ? Oui, je voulais réagir sur le pourquoi vous n'êtes pas partie plus tôt. Alors, il faut arrêter de poser cette question-là aux femmes.
Oui.
Et justement, la formation des professionnels permet de ne pas poser cette question. Mmh. Et c'est toute la notion de contrôle coercitif qu'on a abordé tout à l'heure qui va permettre justement de comprendre pourquoi elle n'est pas partie plus tôt, puisque justement, ce système l'a emprisonnée et l'a fait rester. Et une fois qu'on comprend le système du contrôle coercitif, on ne se pose plus la question de pourquoi elle n'est pas partie plus tôt, mais on se demande comment faire pour qu'elle parte sans y laisser sa vie. C'est vraiment l'inversion, le changement de paradigme. Et je me permets juste d'ajouter que, effectivement, les féminicides, en plus, en l'état, ils ne baissent pas. Il y a beaucoup de remue-ménage, et c'est très bien qu'on en parle, etc. Mais la réalité
des chiffres sont glaçantes,
parce que les féminicides, quand on regarde les dossiers, il y a eu des antécédents. Il y avait avant des violences,
ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain.
Oui. Il y avait déjà des antécédents. Oui. Et donc, la problématique des féminicides, elle est d'autant plus compliquée pour cela, parce que c'est compliqué de lutter. Et pour les enfants, je tiens à le dire parce que c'est important. Les enfants sont souvent considérés comme des témoins, encore aujourd'hui, dans les procédures. Moi, je me bats pour qu'on considère qu'un enfant, il n'est pas témoin de violence, mais victime de violence. Et quand on connaît un peu la réparation du préjudice corporel, en fait, à partir du moment où l'enfant va être traumatisé, qu'il soit témoin auditif même, ou visuel, il va avoir des répercussions sur sa propre santé, sur son propre bien-être. Et si on le faisait expertiser, cet enfant, on aurait ces séquelles psychiques qui pourraient apparaître. Et donc, l'enfant, aujourd'hui, il faut vraiment le traiter comme une victime aux côtés de la personne principale et véritablement... prendre en charge cette famille et ne pas sectionner, en fait. Et donc, l'importance aussi d'être formé à la réparation du dommage corporel, en plus d'être formé au droit familial, en plus d'être formé au droit pénal. Aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper des violences intrafamiliales sans avoir une approche interdisciplinaire.
Merci Sveta. J'ai un chat dans la gorge qui m'empêche de réagir. Merci beaucoup. Je propose une dernière pause, un peu de musique avec Chimène Badi. Reste là avant de donner la parole à nouveau à Corinne et puis sur cette dernière ligne droite de l'émission. À tout de suite.
Sur cette scène qui brûle, je me sens minuscule, comme la première fois. Que votre lumière est belle, moi qui ne connais qu'elle, elle me fait peur ce soir. On se sent à la traîne quand la vie nous entraîne, où l'on ne s'attend pas. Toutes ces larmes qu'on verse sur les chemins de traverse, qu'on ne traverse pas. Et si ma voix tremble parfois, pardonnez-moi, pardonne-moi. Si mon corps chante plus fort que moi, le cœur est là, je reste là. Pour que les larmes montent et que le geste compte, que faut-il que je fasse? Seigneur, je sens mon cœur serré à l'intérieur et qui manque d'espace. Si on est à la traîne quand la vie nous entraîne, où l'on ne s'attend pas. Qu'importe les larmes qu'on verse sur les chemins de traverse, je les traverse avec toi. Et si ma voix tremble parfois,
pardonnez-moi,
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 pardonne-moi,
pardonne-moi.
Si mon corps chante plus fort que moi, le cœur est là, je reste là. Et jusqu'à la fin de ma voix,
chante avec moi,
chante avec moi,
chante avec moi,
chante. Brûle, je me sens minuscule comme la première fois.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes bien sur IDFM Radio et merci d'être resté à notre écoute. C'est l'économie en direct et ce matin nous parlons des violences intrafamiliales en présence de Stéphane Alemo, bâtonnier au barreau du Val d'Oise, Sveta Panagas, avocat membre du Conseil de l'Ordre, Corinne Le Foulgoc Delmouly, avocat membre du Conseil de l'Ordre. Alors Corinne, on a bien compris aussi que vous aviez eu cette appétence hein, également pour vous occuper de la famille et de l'autre. On a évoqué avec Stéphane Alemo le PAC Nouveau Départ. Je voudrais aussi revenir sur l'ordonnance de protection puisque vous nous avez dit l'un et l'autre que c'était des mesures qui étaient mises en route très très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les délais justement entre le moment où la personne est entendue et puis
Alors, d'abord, la personne victime peut être assistée au nom d'un avocat. Conseille quand même d'être assistée parce que c'est vrai que le dossier a plus de chances d'aboutir si les violences vraisemblables sont avérées avec l'assistance d'un avocat, parce qu'il faut constituer le dossier. Il faut aller très vite puisque les violences doivent être vraisemblables et elles doivent être aussi actuelles. Hein, dans l'idée. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où la victime aura déposé, aura saisi le juge des affaires familiales par le biais d'une requête, le juge a 6 jours pour rendre une ordonnance, ordonnance de protection, à compter de la date de fixation de l'audience.
Oui, donc 6 jours, c'est très rapide.
C'est extrêmement rapide. Ça veut dire, parce qu'il faut aussi respecter le contradictoire dans ce délai-là. Il faut que la requête puisse être signifiée à l'auteur pour qu'il puisse évidemment être entendu.
Se défendre.
Parce que les faits sont graves et peuvent entraîner effectivement des conséquences extrêmement graves, puisque le juge peut prendre certaines mesures quand même assez coercitives, un peu contraignantes pour l'auteur. Donc c'est important effectivement qu'il puisse être entendu pour respecter le droit de la défense. Mais c'est vrai aussi qu'en amont, il faut que la victime puisse préparer son dossier. Alors, même si la plainte n'est pas obligatoire, elle est quand même conseillée.
Oui.
En tout cas, on le voit en pratique, hein, pour en avoir discuté avec certains juges aux affaires familiales, quand même, malgré tout.
Préciser qu'il faut, parce qu'il y a la main courante et il y a la plainte, hein, ce sont deux choses différentes.
Deux choses différentes, et puisque la main courante, c'est une simple déclaration
qui n'aura pas forcément de...
Non, même si elle a tendance à remonter quand même au parquet, en tout cas, dans la loi. Mais c'est vrai que sur le principe, la main courante, c'est une simple déclaration. La plainte, elle, amène au contradictoire, puisque généralement, l'auteur va être entendu aussi. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai que c'est aussi pour ça que ça fait peur à la victime.
Bien sûr. Ouais.
C'est vrai aussi que quand il y a des plaintes et quand il y a eu des violences, et notamment des violences physiques, notamment, on va proposer à la victime d'aller voir un médecin. Il va aller voir l'UMJ pour avoir un certificat médical. Et c'est important pour fixer notamment le nombre de jours d'ITT, ce qui va aussi permettre un petit peu d'évaluer la gravité, un petit peu aussi des violences commises et du danger. Voilà.
Mais
c'est vrai aussi qu'il ne faut pas attendre. Il faut que le danger soit actuel et voilà. Il ne faut
bien
pas
sûr.
Attendre parce que des violences qui sont passées il y a plusieurs mois, quelquefois,
c'est
on
compliqué.
A vu, en tout cas, au tribunal, que les dossiers étaient écartés.
Ah oui, alors, carrément.
Ouais, c'est voilà. Bon, ça c'est
donc c'est là où toute votre comment votre psychologie entre en jeu, parce qu'il faut absolument que vous arriviez à convaincre.
Il faut être actif. C'est pour ça qu'en amont, souvent, il y a un travail avec la victime et on réunit tous les éléments qu'on peut, les attestations aussi. Ça peut être différentes choses, des messages, comme je disais, pour montrer qu'effectivement, peut-être des plaintes précédentes, des mains courantes précédentes, enfin, constituer un dossier pour démontrer qu'effectivement, il y a des violences qui sont réelles et qui sont actuelles, vraisemblables en tout cas, et que la victime a besoin d'être protégée. Il faut savoir aussi que il y a une circulaire qui vient de paraître en août 2022, mais depuis mars 2024, le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance provisoire dans les 24 heures, parce que même si le délai de 6 jours est court,
il n'empêche que très long,
ça
parfois.
Peut être très long pour la victime. Alors, dans les cas les plus graves, quand une ordonnance de protection a été déposée, le parquet peut, avec le consentement de la victime, parce qu'il faut le consentement de la victime, demander au juge aux affaires familiales de prendre une ordonnance provisoire pour prendre les premières mesures. Bien évidemment, ensuite, ça suit son cours, c'est-à-dire qu'après, il y aura la décision du juge qui est aux affaires familiales, qui va prononcer, qui va statuer sur l'ordonnance de protection. Il faut savoir que les mesures aussi ont augmenté, parce que l'ordonnance de protection, à l'origine, n'était valable que 6 mois.
D'accord.
Elle pouvait être prolongée si l'épouse avait saisi le juge d'une procédure de divorce, ou pour les personnes non mariées, avait saisi le juge d'affaires familiales pour fixer les modalités de l'autorité parentale quand il y a des enfants. 6 mois, c'était court, quelquefois, pour se retourner.
Bien sûr.
Là, ça a été prolongé à 12 mois.
Parce que les jours passent vite dans ce cas-là.
Voilà.
Merci infiniment à tous les trois. Stéphane, vous pouvez être fier de vos avocates spécialisées dans ces affaires de violence intrafamiliale. Et puis, toutes les deux, avec votre personnalité différente, je suis sûre que vous devez bien aider les personnes qui viennent dans votre... les justiciables, c'est ça. Merci infiniment. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous redonner la parole pour un mot de conclusion. Je vous donnerai la parole en dernier, Stéphane. Donc, Sveta, un mot de conclusion, peut-être un conseil à nos auditrices, auditeurs,
Alors j'ai pas eu le temps d'aborder la question de l'indemnisation, mais juste pour vos auditeurs.
Vous reviendrez.
Ouais, plaisir. Mais je veux quand même le dire parce que c'est important et on n'y pense pas forcément. Il faut que les femmes qui nous écoutent, et même les enfants qui nous écoutent, sachent que ils ont un droit à indemnisation en plus de faire condamner l'auteur des violences, et que évidemment souvent les auteurs sont insolvables, voire des fois ne vont pas être forcément poursuivis.
Oui.
Mais il y a une instance qui existe, qui est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, avec un fonds de garantie des victimes d'infractions qui permet d'être indemnisé de manière autonome.
D'accord.
Et en fait, l'indemnisation, alors souvent on va dire, ben non, mais c'est pas la priorité quand on a notre vie en danger, etc. Mais j'étais aux assises
comme
le 14.
C'est pas que nouveau départ, un petit peu.
Quelque part. Il y a quand même besoin, effectivement. Ouais. Et ça participe à sa propre autonomie. J'étais aux assises des féminicides le 14 septembre et j'ai fait passer ce message d'ailleurs qui a résonné, c'est que l'argent permet quand même de se reconstruire malgré tout et les préjudices peuvent être indemnisés en fonction des différentes catégories. Il y a les préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux. Et voilà, par exemple, quand un enfant qui perd sa mère, bah, il va avoir des préjudices économiques énormes qui doivent être indemnisés, en plus du préjudice d'affection. Je me bats aussi pour que le préjudice lié à la mort elle-même, qui n'est pas reconnu en droit français, puisse être un jour reconnu, puisque en France, on n'indemnise pas la mort. Voilà. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse, et je pense qu'il faudra refaire une émission là-dessus.
Ah oui, complètement.
Mais l'indemnisation des victimes, c'est un point important aussi. Et pour conclure, parce que je vais terminer sur les enfants, du coup, il y a quelque chose qu'on sous-estime. C'est que l'enfance, c'est un enjeu de santé publique, c'est notre avenir. Et les pouvoirs publics en prennent conscience, mais n'investissent pas assez dans la protection de l'enfance. Or, on a le dernier rapport Civis, juste pour vous donner une idée, sur les violences sexuelles, le coût, si on parle, comme votre émission est une émission économique à la base, si on parle du coût des violences sexuelles, on est sur un montant de 9,7 milliards d'euros par an,
estimation.
Énorme. Voilà. Donc si on investissait un peu plus
précision.
Si on investissait un peu plus dans la protection de l'enfance, au-delà de protéger des enfants qui est au cœur de notre humain, il faut aussi se poser la question de l'économie liée aux maltraitances donc il faut combattre par tout moyen en éduquant, comme l'a très bien dit Stéphane Alimo, en éduquant aussi les jeunes en leur apprenant effectivement le respect de la personne et une éducation qui soit effectivement positive. On sait aussi que depuis 2019 on ne donne plus de fessées,
je sens que vous êtes passionnée, donc on pourrait en parler encore longtemps, mais
merci beaucoup
merci à vous Sveta Panagas infiniment. Corinne Le Foulgoc d'Elmouli, un mot de conclusion.
Oui, moi je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire parce que dans tous les domaines,
on peut refaire une émission,
le couple, l'enfant, etc. Je voulais juste donner une information aussi parce que Sveta a parlé effectivement des violences sexuelles sur les enfants. On a incriminé maintenant l'inceste, c'est quelque chose qui était un peu tabou et qui l'est de moins en moins. Et heureusement, aussi la parole se libère et heureusement parce que c'est très important.
Oui, c'est un phénomène très répandu, hein.
Toutes les catégories sociales.
Toutes les catégories sociales, c'est clair. Et il faut savoir que la loi du 18 mars 2024 a prévu une suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent qui fait l'objet d'une décision de poursuite par le ministère public ou a été mis en examen par le juge d'instruction pour des faits de crime commis soit sur l'autre parent, on parle de crime, ou sur son enfant pour des faits d'agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant. Et ça a été provisoire jusqu'à évidemment ce que le juge aux affaires familiales tranche, c'est toujours mais en intermédiaire, et ou non lieu ou juridiction ou la décision de la juridiction pénale. Donc il faut savoir, la Cour de cassation a évalué sur la question de la responsabilité parentale qui ne pèse plus uniquement sur le parent gardien, mais il faut savoir aussi que commettre un crime sur son enfant ou même sur le parent engendre des conséquences automatiques également sur les droits du parent auteur.
C'était important de le préciser. Merci infiniment Corinne, merci d'avoir traité de ce sujet avec nous ce matin. Merci. Stéphane Alimo, le mot de la fin est pour vous.
Très rapidement, d'abord je voulais effectivement vous remercier de nous avoir invités. J'espère
merci
qu'on a
vous.
Pu éclairer
J'ai
vraiment vos éditeurs
sur
un sujet qui est très vaste, qui n'est pas facile à appréhender. On a aussi notre jargon juridique, mais on essaie d'être au plus clair sans pour autant être trop précis pour ne pas les noyer
J'ai
dans les détails.
Compris.
Bon, très bien, j'espère que les auteurs aussi. Non, juste pour vous dire que la justice, elle fait ce qu'elle peut. Elle intervient quand elle est saisie, évidemment. C'est un traitement a posteriori des faits de violence, etc. Mais la justice, en elle seule, ne peut pas éradiquer totalement le problème des violences, de manière générale, conjugales, intrafamiliales, etc. tout passe aussi, je pense, dans un travail préventif d'éducation de nos plus jeunes enfants. Moi, je suis papa d'une petite fille, vous savez, je vous l'avais déjà dit. Mmh. Et donc, voilà, je pense que ces phénomènes de violence, quels qu'ils soient, ils doivent être traités en amont. Peut-être qu'un jour, vous inviterez, vous l'avez peut-être déjà fait, les pouvoirs publics, hein, s'expliquer aussi là-dessus. Ils ont aussi des comptes à rendre. La justice fait son travail, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas tout faire.
J'adorerais inviter Madame Gwenola, jolie cause justement, mais bon, elle est à Poitiers maintenant. Oui. Donc, mais bon, pourquoi
il lui arrive
pas.
Quand même
il faut arriver
de se déplacer en
si
région parisienne.
La... Oui, oui. Je, quand j'avais voulu l'inviter, elle venait juste de partir. Mmh. Donc, mais bon, je vais m'y atteler à nouveau. Pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir voulu traiter de ce sujet, Stéphane. C'était pour cette première émission avec oui. vous. C'était, je pense que c'est une émission réussie, même si le sujet est douloureux. Mais voilà, comme on disait, il faut de plus en plus en parler. Hein, ça devient indispensable. Merci à vous. Merci d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci, merci Francky pour la technique. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le portail de la radio et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne journée et bonne semaine.